Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Fogassi de la Fondation Charles de Gaulle et je suis absolument ravi de vous accueillir pour ce webinaire que la Fondation va consacrer à un sujet qui peut sembler ancien et qui est en fait nouveau, plus exactement renouvelé par l'historiographie, c'est-à-dire la relation entre De Gaulle et Pompidou. Alors, De Gaulle-Pompidou, on peut avoir l'impression qu'effectivement, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler. Une relation au long cours, une relation qui commence au lendemain de la guerre, quand Georges Pompidou intègre le cabinet du général de Gaulle, qui va se poursuivre à travers les vicissitudes du RPF, avant évidemment la période royale, celle du cabinet à Matignon, 58, et puis évidemment 62, l'entrée de Georges Pompidou comme Premier ministre, alors qu'il est inconnu, ou en tout cas peu connu des Français, mais que par contre il est très connu, profondément connu, du général de Gaulle à ce moment-là. Donc, cette relation, elle est souvent réduite au moment 69, c'est-à-dire au fait que Georges Pompidou va succéder au général de Gaulle et au froissement, aux tensions des années précédentes. On a pu parler du duel entre de Gaulle et Pompidou. Si aujourd'hui on organise ce webinaire, c'est précisément parce que l'historiographie nous offre deux ouvrages qui permettent de relativiser un petit peu cette vision, cette image d'Épinal, et de reconsidérer la complexité de la relation entre De Gaulle et Pompidou. Le premier ouvrage, c'est celui du professeur Bernard Lachaise. Alors, professeur Lachaise, qui est avec nous, je ne sais pas si
Oui,
vous êtes
bonjour, je vous
connecté.
entends.
Voilà.
Bonjour, professeur.
Donc, voici cet ouvrage, Georges Pompidou avec De Gaulle, aux éditions Codex. Cet ouvrage est rare et précieux.
Sur mon bureau. D'accord.
Cet ouvrage est rare et précieux, voici, monsieur le professeur, puisque il se base sur les notes de Georges Pompidou, des notes hebdomadaires. C'est un ouvrage qu'il faut lire parce qu'il nous donne une image du général de Gaulle peu connue, ou en tout cas mal connue. On voit au quotidien Charles de Gaulle, en particulier à l'époque du RPF, c'est-à-dire à une époque où il peut avoir l'impression que son destin l'échappe, à ces moments où il essaye de conduire son parti depuis le siège de la rue Solferino que nous occupons à la Fondation Charles de Gaulle. C'est une période difficile, très douloureuse, et Georges Pompidou est à ce moment-là l'homme que Charles de Gaulle voit le plus, celui qui recueille ses confidences. Et donc c'est un de Gaulle un petit peu inconnu qu'on découvre grâce à cet ouvrage que vous avez édité, monsieur le professeur, et que vous avez annoté avec une riche introduction critique. Alors cet ouvrage, il s'inscrit dans une vaste œuvre que vous avez consacrée au gaullisme sous toutes ses formes, en particulier la somme De Gaulle et le RPF que vous avez dirigée, toute une série de monographies, votre thèse sur le gaullisme dans le Sud-Ouest et un ouvrage que vous préparez à gauche du gaullisme qui va paraître aux éditions PUF, donc au PUF, en janvier prochain. L'idée donc, c'est d'avoir cette espèce de vision globale du gaullisme et en particulier de cette période moins connue, celle du gaullisme d'opposition, qui est aussi une période au cours de laquelle De Gaulle va se révéler. L'idée, c'est donc que passer par cette période pour comprendre les origines de la relation entre De Gaulle et Pompidou est quelque chose d'absolument essentiel, en tout cas d'absolument fondamental. Mais autre ouvrage donc qui est paru, celui d'Arnaud Tessier, que voici. Donc,
J'ai aussi sur mon bureau.
Arnaud Tessier, donc inspecteur général de l'administration, mais surtout historien, universitaire et donc auteur de cet ouvrage, L'énigme Pompidou-De Gaulle, paru aux éditions Perrin, voici 2 mois. Là aussi, Arnaud Tessier recherche par cet ouvrage à percer un petit peu le mystère de cette relation Pompidou-De Gaulle en l'inscrivant dans le long terme, c'est-à-dire en proposant des vies parallèles, d'abord, des deux hommes qui ne sont pas de la même génération, qui ont peut-être des sensibilités, un fond, disons, culturel originellement très différent, mais qui vont se rejoindre autour d'objectifs et autour d'une vision de la France. Mais cet ouvrage, il vise aussi à poursuivre et à accompagner ce parcours jusqu'au bout, ce parcours de Gaulle et de Georges Pompidou, précisément en se demandant ce que, après la disparition du général de Gaulle, ben Georges Pompidou, qui lui succède à l'Élysée, va garder. Enfin, Monsieur le Président Godefrin a été conseiller de Georges Pompidou à l'Élysée entre 1973 et 1974. Donc vous avez vécu, je ne dirais pas le crépuscule, le terme
sera... La dernière année de sa vie.
La dernière année, effectivement, de Georges Pompidou à l'Élysée. Vous lui avez parlé, vous l'avez intimement connu comme président de la République, et donc votre témoignage nous sera précieux pour essayer de percer ce mystère de Gaulle-Pompidou. Alors, on va essayer de dérouler un petit peu de manière chronologique donc, cette relation entre les deux hommes. On va commencer avec vous, Bernard Lachaise. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer tout simplement, nous parler de ces sources auxquelles vous avez eu accès, ces carnets de Georges Pompidou, et la manière donc, dont ils ont nourri cet ouvrage, et puis aussi peut-être, pour introduire le sujet, que pouvez-vous nous dire de l'image qu'il donne de Georges Pompidou, puis exactement de la manière dont il renouvelle l'image qu'on connaît de l'ancien président de la République?
Alors, ces carnets ne sont pas totalement inédits, puisque Georges Pompidou lui-même en avait publié des extraits dans son ouvrage pour rétablir la vérité, une vérité. Ensuite, Alain Pompidou et Éric Roussel en ont publié des extraits il y a quelques années, mais en les consultant aux archives nationales, où ils sont désormais déposés et accessibles à tout le monde, je me suis rendu compte que la version intégrale était très riche et méritait une publication. Cette version intégrale ne porte que sur la partie des carnets qui a été conservée, c'est-à-dire 1949-1953, puisque visiblement, d'après Alain Pompidou, Georges Pompidou a éliminé la première période des carnets après les avoir utilisés, et ils n'existent pas non plus, en tout cas, ils n'ont pas pu être retrouvés, les carnets pour la période ultérieure à 1953. Alors, c'est une source effectivement très riche, puisque c'est écrit au quotidien quasiment par Georges Pompidou dans sa collaboration avec Charles de Gaulle au temps du RPF. Ce n'est pas la seule source malgré tout de l'ouvrage, puisque je me suis appuyé aussi, comme tout historien, sur d'autres sources, à savoir les archives du général de Gaulle pour la période du gouvernement provisoire de la République française. Également des archives de René Brouillet qui venaient d'être versées aux archives nationales et qui sont précieuses tant la relation amicale est forte entre les deux hommes, quelques archives de la Fondation Charles de Gaulle également et des sources orales de l'Institut Georges Pompidou, de collaborateurs et d'amis de Georges Pompidou, comme Jean Donne-Dieu de Vabre, par exemple, ou Étienne Burin-Desrosiers, qui ont apporté sur cette période des témoignages très, très, très précis et très précieux. Alors, quelle image de Georges Pompidou retirer de toutes ces sources, et en particulier des carnets? Il y a des confirmations. Tout n'est pas, évidemment, extrêmement neuf. Il y a des confirmations, par exemple, pour reprendre la formule qu'Éric Roussel avait utilisée à propos de Pompidou au temps du RPF, en marge et au centre de tout, ces carnets confirment et amplifient encore cela. C'est-à-dire, on est vraiment surpris de la part très active, quotidienne, que le chef de cabinet prend dans l'histoire du RPF. On a également, parmi les aspects confirmés, disons, de l'image de Georges Pompidou, la confiance qu'Yvonne de Gaulle accordait à Georges Pompidou, qui était devenu le trésorier de la Fondation Anne de Gaulle, et ça, c'était extrêmement précieux pour approcher, disons, le général et sa famille dans la plus grande intimité, finalement, ce qu'il y avait de plus intime. Et puis, ça confirme la fréquence des rencontres, des discussions entre Georges Pompidou et le général. Alors, les éléments peut-être les plus neufs, que l'on voit Georges Pompidou qui travaille beaucoup, qui a une capacité de travail très très forte. On voit un Georges Pompidou qui a aussi une vie sociale très riche. Il travaille le jour, mais il sort aussi beaucoup le soir, à midi, il a beaucoup de déjeuners, de dîners précieux sur lesquels nous pourrons peut-être revenir. Georges Pompidou, et ça aussi, on pouvait le penser, mais ce n'était pas aussi net peut-être qu'avant la lecture de tous ces carnets, Georges Pompidou connaît remarquablement, dès cette époque-là, il découvre à cette époque-là, le personnel gaulliste de l'époque. Il est très, très, très mêlé à ces gens qu'il ne connaissait pas auparavant et qui évidemment qu'il découvre, avec lesquels il va travailler et qu'il côtoiera pour un certain nombre d'entre eux jusqu'à la fin de sa carrière politique. Georges Pompidou travaille beaucoup, je l'ai dit, il s'avère aussi qu'il aime ce qu'il fait. Il se réjouit de ce travail. Parfois, il dit qu'il peut en avoir assez, mais en réalité, on le voit plutôt satisfait quand même. C'est assez intéressant de voir cette façon qu'il a de devenir très conscient et très confiant dans ses jugements. Alors, il porte des jugements très durs sur les autres, sur un certain nombre de figures de l'entourage du général de Gaulle et de dirigeants de l'époque du RPF. Et en même temps, il est très impliqué, il veut rester en dehors parce qu'il n'est pas dans l'appareil du parti, mais il est très soucieux de l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne veut pas insulter l'avenir. Ce qui est intéressant, par exemple, dans une lettre à René Brouillet, c'est qu'il écrit une lettre qui avait d'ailleurs été publié par Alain Pompidou et Éric Roussel, où il est assez dur, mais où il demande à son ami Brouillet de détruire la lettre. Bon, on a l'impression quand même que, voilà, il veut bien exprimer un certain nombre de choses, mais voilà, et on reverra d'ailleurs ce genre de propos peut-être ultérieurement. Donc voilà quelques aspects peut-être qui confirment ou qui apportent quelques éléments nouveaux à partir de ces carnets.
Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est une source d'une extrême richesse pour ce que ça dit de Georges Pompidou, du fait que la fidélité, c'est toujours une complexité, bien évidemment, qu'il n'existe pas en politique de fidélité inconditionnelle, que d'ailleurs De Gaulle n'attend pas une fidélité exempte de critique. Ça dit aussi beaucoup de choses sur Charles de Gaulle, puisque vous reportez chaque semaine les propos de Georges Pompidou après ses entretiens avec celui qu'il appelle Charles. Il y a donc une vraie confiance qui se noue entre les deux hommes. Alors je me tourne vers Arnaud Tessier. Ce livre, votre ouvrage s'appelle L'énigme Pompidou-De Gaulle, comme si, en quelque sorte, cette rencontre n'avait fondamentalement pas grand-chose d'évident. Et vous commencez par l'idée qu'il y a un décalage de génération, qu'un homme né en 1890, effectivement, ben, forcément une appréhension du monde différente d'un homme né plusieurs années plus tard, que d'autre part, il y a des différences de milieu, des différences d'appréhension culturelle qui créent la difficulté de cette rencontre initiale. Alors, est-ce que du coup, cette rencontre entre De Gaulle et Pompidou, c'est une rencontre qu'on pourrait qualifier d'improbable ?
C'est la formule que j'aime bien, je crois que c'est Denis Tillina qui disait « ils étaient faits pour ne pas s'entendre ». Et effectivement, ils ont deux parcours, deux profils, des tempéraments très différents. Différence de génération, il y en a un qui a fait la guerre, et pour qui la guerre avait évidemment été une expérience, enfin la guerre de 14, Pompidou a fait 39-40, et qui a fait la guerre de 14, qui est de 20 ans plus âgé. Ils n'ont pas le même tempérament du tout. De Gaulle est quelqu'un, enfin, on pourrait en parler des heures, mais quelqu'un qui a quand même une idée assez déterminée très tôt du destin qui se dessine devant lui, qui a des idées très résolues, qui a des lignes de force. Pompidou, on le sait à la fois par ses écrits, par les témoignages de ceux qui l'ont bien connu, comme René Brouillet, effectivement, qui est un de ceux qui ont été proches de lui. Et c'est quelqu'un qui hésite beaucoup entre plusieurs destins, sachant qu'il pouvait avoir finalement une carrière universitaire, une carrière de professeur, une carrière de haut fonctionnaire. Il aurait pu très bien aller dans la haute fonction publique. Il l'a fait à partir du parcours type Sciences Po, comme l'a fait René Brouillet, qui est allé à la Cour des comptes. Donc, il avait en réalité plusieurs destins possibles et il hésitait entre ces destins. C'est donc deux tempéraments très différents, même des goûts littéraires qui ne se recoupent pas. De Gaulle est plus intellectuel, plus attaché aux essais, plus attaché à des figures de la littérature comme Peggy, par exemple, alors que Pompidou est plus proustien. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai essayé de débroussailler un petit peu ce paysage complexe où on voit deux hommes finalement très différents, à la fois par leur génération, par leur parcours, par leur tempérament. Et puis, bien entendu, par leur destin, puisqu'on sait, Pompidou ne participe pas à la résistance, il n'a pas l'occasion, en tout cas, de le faire, et il fait partie de ces hommes que des gens comme René Brouillet ou Palevski veulent attirer précisément dans l'entourage de Gaulle au moment de la libération, parce qu'ils considèrent que De Gaulle ne doit pas être entouré uniquement d'anciens résistants. Il faut des collaborateurs intelligents, avisés, qui ont peut-être connu la France de l'intérieur pendant l'occupation et qui apporteront peut-être une vision des réalités plus éclairante. Et je crois que c'est quelque chose aussi dont il faut tenir compte et qui explique aussi le fait qu'un homme comme Pompidou a pu être, a pu venir au cabinet de Gaulle. Il voulait y aller, hein, c'est pas simplement, il avait envie de participer. Il avait contacté avant même Brouillet, il avait pris plusieurs contacts pour essayer de participer à cette aventure politique qui commençait. Et puis il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est pourquoi. On comprend très bien pourquoi Pompidou se retrouve finalement au cabinet du chef du gouvernement provisoire, mais il y a l'autre côté un peu énigmatique. Comment se distingue-t-il aux yeux de Gaulle alors qu'il est parmi un certain nombre de collaborateurs? Il aurait pu passer inaperçu, il voit très peu le général. Les occasions pendant lesquelles, pendant cette période, il aura de le voir sont très courtes. Bien, il semble qu'il se soit fait remarquer tout simplement parce qu'il a commencé à faire des notes d'actualité politique générale et puis parce que de Gaulle a discerné assez vite que ce collaborateur-là était tout simplement d'une grande intelligence et d'une grande finesse d'analyse. Et je crois que s'il y a une qualité quand même de Georges Pompidou parmi beaucoup d'autres qualités qui frapperont beaucoup de Gaulle, ça peut paraître une banalité, c'est son intelligence, c'est son acuité d'analyse, son extrême acuité d'analyse, et ça se remarque à travers les notes, à travers les papiers que Pompidou peut faire. De Gaulle a l'aptitude à déceler ce type de talent, et je crois que ça a beaucoup compté. Donc, énigme ou pas énigme, ce qui est certain, c'est qu'il va être un collaborateur remarqué par le général. Et ce qui est plus énigmatique, mais ça on en parlera peut-être après, c'est l'intensité de cette relation qu'il y a eu entre eux, une confiance exceptionnelle et une confiance telle que de Gaulle pourra le qualifier de compagnon avec tout le, dans une dédicace qu'il lui fera, avec tout le sens évidemment que le mot compagnon peut revêtir chez quelqu'un comme de Gaulle. Donc ce n'est pas seulement le fait qu'il était un collaborateur remarqué, malgré de grandes différences de formation, malgré le côté très normalien, très littéraire et quelquefois un peu dilettante de Pompidou, c'est surtout l'intensité de la relation qui va les unir quand même pendant plusieurs décennies.
Merci beaucoup. Alors, Bernard Lachaise, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire, ce que vient de dire Arnaud Tessier, puisque vous revenez assez longuement sur les conditions de la rencontre, donc toute fin septembre 1944, entre Georges Pompidou, professeur de lycée, qui s'ennuie, qui ne veut plus décliner Rosa la Rose, selon son expression, et général de Gaulle, avec un homme dont vous avez déjà parlé, qui va jouer un rôle décisif, qui est René Brouillet. Mais effectivement, ce qui est tout à fait frappant, c'est la manière avec laquelle Georges Pompidou va très très vite s'imposer dans le premier cercle de Charles de Gaulle. Alors, quelle est votre vision du point de vue pompidolien? Est-ce qu'il y a une stratégie pour s'imposer? Est-ce qu'il y a une cohésion qui va petit à petit apparaître? Ou alors, qu'est-ce que c'est finalement deux formes d'esprit, comme le disait Arnaud Tessier, qui vont se compléter? C'est-à-dire que Pompidou est en quelque sorte le collaborateur idéal dont Charles de Gaulle a besoin à ce moment-là.
Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par Arnaud Tessier. Effectivement, Georges Pompidou, quand il sollicite la possibilité d'entrer au cabinet du général en s'adressant donc à son ami René Brouillet, c'est vraiment parce qu'il est lassé de l'enseignement. Je crois que là, il y a vraiment un désir qu'il avait déjà manifesté, enfin, une... Il avait vraiment manifesté déjà avant la guerre, dès les années 30, que finalement l'enseignement n'était pas sa passion et qu'il ne se voyait pas faire carrière dans ce métier. Il a le désir de servir en 1944 parce qu'il est conscient que la tâche nationale est évidemment de très très grande ampleur. Il y a vraiment ce désir de servir parce qu'il sait que voilà, le pays a besoin de nombreuses bonnes volontés et de gens capables pour pouvoir servir. Alors, il entre au cabinet, quand il entre au cabinet donc, du général le 1er octobre 1944, il n'est pas dans le premier cercle puisqu'il n'est pas au cabinet même du général, hein, où il y a quelques personnes, il est au cabinet civil parmi d'autres. Son profil, d'ailleurs, n'est pas original d'une certaine manière par rapport aux autres membres de ce cabinet. Comme les autres, il est jeune. Comme les autres, il est diplômé, pour ne pas dire surdiplômé. Ils sont pour la plupart des nouveaux autour du général. Sa double originalité, c'est qu'à la différence de beaucoup, il n'a pas fait de la résistance, donc il ne vient ni de la résistance de la France libre, ni de la résistance intérieure. Et puis, comme le souligne Gaston Palevski, c'est un professeur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a ce côté intellectuel avec, dit Palevski, cet esprit un peu frondeur de l'université. Donc, ça, ce sont un peu les deux originalités, en quelque sorte, de Pompidou par rapport aux autres membres du cabinet civil. Et comme l'a dit Arnaud Tessier, l'intelligence de Georges Pompidou est évidemment, je pense, la clé du fait qu'il est très, très vite repéré par le général. Alors, s'il ne le rencontre pas beaucoup en tête-à-tête, il l'accompagne beaucoup dans les voyages. Et ça, on l'a un peu longtemps oublié. Il fait également, il rédige beaucoup de notes. Les archives de Gaulle de l'époque le montrent. Beaucoup de notes, d'ailleurs, pas du tout dans les domaines attendus qui étaient officiellement ceux de sa compétence, c'est-à-dire l'éducation nationale et l'information, mais beaucoup de notes politiques sur la situation des départements français à la fin de la guerre, sur les rapports politiques. Et là, on est presque bluffé parfois par la connaissance de cet homme qui est un prof, qui n'a pas fait de résistance, qui n'a pas beaucoup voyagé à travers le pays, mais qui finalement dans ses notes est capable de synthétiser de façon assez remarquable et de faire des analyses politiques très justes. Donc ça, je pense que c'est un élément qui a beaucoup plu, évidemment, et non seulement à Gaston Palevski, directeur du cabinet, mais à René Brouillet et aux autres. Et très vite également, il fait preuve d'une grande capacité de travail, d'un talent d'organisateur. La petite anecdote concernant le fameux défilé là, qui était très mal organisé et qu'il finalement prend en main puisqu'on lui dit bah, « puisque vous avez critiqué un défilé, vous allez, ou la manifestation au moment du 18 juin 1945, eh bien, vous allez organiser le défilé du 14 juillet 1945, ce qu'il fait ». Voilà, donc c'est toute cette série de compétences, de qualités qui font que très vite, on le distingue, le général le distingue et lui manifeste toute sa gratitude au moment où il quitte le pouvoir en janvier 1946.
Alors, je vais me permettre de prolonger un petit peu justement votre intervention. Vous l'avez dit, Georges Pompidou est un non-politique. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas d'expérience partisane et qui se retrouve finalement à jouer un rôle très vite essentiel dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que du coup, on voit Georges Pompidou au cours de ces années, de ces quelques semaines au cabinet, prendre le goût à la politique, s'affirmer, développer une compétence ou une appétence particulière, alors que finalement, des politiques autour de Gaulle, ou en tout cas des gens qui ont eu des expériences politiques dès les années 30, ils ne manquent pas?
Oui, mais il découvre effectivement là la politique. Bon, il n'était pas resté insensible quand même à la politique dans les années 30 et dans son époque normalienne. Voilà, il y avait quand même un goût pour la politique. Ensuite, un petit peu moins dans la deuxième moitié des années 30. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment à ce moment-là qu'il ait pris goût à la politique. Il l'a vraiment découverte dans la pratique, je dirais, les mains dans le cambouis quasiment à l'époque du RPF, plus qu'à l'époque du cabinet au temps du gouvernement provisoire.
D'accord. Alors, maintenant, quelque chose qu'il faut quelque part un peu élucider, c'est précisément la manière dont petit à petit, à l'époque du RPF, Georges Pompidou va s'imposer comme l'un des principaux collaborateurs de Charles de Gaulle. C'est-à-dire qu'il va avoir petit à petit un rôle de chef de cabinet avant de devenir le principal interlocuteur de Charles de Gaulle qu'il rencontre très, très fréquemment. Alors là, je me tourne vers les deux intervenants. Dans une certaine mesure, comment est-ce qu'on peut considérer que se met en place ce procédé? Comment est-ce que se crée la confiance et comment est-ce que petit à petit, Charles de Gaulle va s'imposer, Georges Pompidou va s'imposer auprès de Charles de Gaulle. Arnaud, tu sais,
Oui, je vais très, très brièvement, je vais laisser la parole là-dessus à Bernard Lachaise. Je pense qu'il va s'imposer parce que c'est ce que disait Bernard Lachaise tout à l'heure, et il citait ce que disait Éric Roussel, il est à la fois en marge et au centre de tout, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu, me semble-t-il, et je crois que c'est très précieux pour un homme d'État qui est peu politicien, c'est le moins qu'on puisse dire, comme l'était de Gaulle, il va être un petit peu celui qui va sécuriser, qui va suivre, qui va régler les problèmes, y compris quand il s'occupera indirectement de la revue Liberté de l'Esprit, qui est une grande aventure intellectuelle de l'époque du RPF. On voit bien, parce qu'on a d'autres témoignages sur la période, on a en particulier ce document, alors, en tout cas pour l'immédiate après-guerre, qui est passionnant, je trouve, qui s'appelle « Un autre de Gaulle » de Claude Mauriac, le fils de François Mauriac, qui était un proche collaborateur de Gaulle, et qui a été republié sous un titre un peu différent, un peu agrandi, sous le titre d'Aimé de Gaulle par la suite. Mais Un autre de Gaulle est un texte, je crois, qui est publié au début des années 70, c'est un journal qui montre tout à fait comment de Gaulle est mal à l'aise, quand même, tout en ayant une certaine aptitude à manipuler, négocier lorsqu'il le veut bien. Il n'aime pas trop quand même le jeu politicien qui va se nouer de manière inéluctable au sein du RPF, parce que le RPF a beau être un mouvement, un rassemblement, c'est quand même un mouvement où on retrouve toutes les caractéristiques d'un parti politique avec les affaires d'amour propre, les rivalités, les personnalités qui s'affrontent, etc. Et je pense que Pompidou, c'est l'homme qui est dedans sans y être, qui est à l'extérieur tout en étant dedans, qui surveille, qui peut régler certains problèmes, parce qu'il comprend comment De Gaulle fonctionne, il comprend intuitivement quelquefois ce dont De Gaulle ne veut pas. Il sait, on le voit bien à certains moments, il sait qu'il faut pousser De Gaulle dans certains de ses retranchements parce que c'est nécessaire, l'empêcher d'être trop sévère, le pousser à agir. Donc voilà, je pense que pour un homme d'État de ce type, Georges Pompidou est un collaborateur irremplaçable parce qu'il est hors des cadres classiques.
Alors, je me tourne vers Bernard Lachaise. Quand on lit ces notes que vous éditez, on est frappé par le temps que Georges Pompidou consacre à gérer des questions de personnes. Guy, Soustelle, Malraux, on voit défiler finalement tous les cadres du RPF et on se rend compte que le travail au quotidien du RPF, c'est de gérer justement les conflits, les ambitions, Chaban, Souchet. On voit aussi que c'est gérer certaines sympathies, certaines antipathies, certaines crispations présentes chez le général lui-même. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a une évolution du rôle de Georges Pompidou auprès du général, que d'organisateur, il devient préposé à la gestion des hommes avant de devenir progressivement un véritable conseiller politique? Parce que je dirais qu'il y a une dernière inflexion, c'est qu'après les législatives de 1951, le dialogue entre Georges Pompidou et Charles de Gaulle, il porte cette fois-ci sur l'avenir du mouvement et sur les perspectives du gaullisme politique.
En lisant les carnets, on est imprégné effectivement de l'activité, du rôle de Georges Pompidou tel que vous venez de le décrire. Et en même temps, en tant qu'historien, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet de source? C'est-à-dire que c'est Georges Pompidou qui exprime ce qu'il ressent, est-ce qu'il n'amplifie pas? Et je crois que là, l'intérêt, Arnaud Tessier évoquait le témoignage de Claude Mauriac, c'est de, quand même de regarder parallèlement, malheureusement ça ne correspond pas toujours en termes de période, ce qu'ont pu écrire un Louis Ternoir ou d'autres personnalités à l'époque qui permettent peut-être de nuancer ou de corriger un petit peu le sentiment que Pompidou est effectivement au centre de tout, fait tout au sein du RPF. Ce rôle, il l'acquiert progressivement. Il y a une montée en puissance, effectivement, vous avez raison de le dire, jusqu'à s'interroger, ou du moins affirmer quasiment, hein, et on est en octobre 1951, je finis par être le vrai secrétaire général. Bon. Alors, c'était moins vrai au temps de Soustelle, ça l'est davantage au temps de Louis Ternoir, donc après les élections législatives de 1951. Mais pour compléter ce que disait Arnaud Tessier, Georges Pompidou est chargé de deux missions particulières qui étaient peut-être moins faciles à mener pour des politiques engagées, disons, dans la vie politique-politicienne du RPF. D'une part, s'occuper des finances, chercher de l'argent. Et le général de Gaulle et tous ceux qui ont travaillé sur le RPF savent que c'était, disons, le souci constant, qu'il y avait toujours besoin d'argent, que ça a toujours été extrêmement tendu. Et là, les carnets montrent de manière très précise et apportent d'ailleurs des éclairages sur les origines de cet argent. Et deuxième domaine où Georges Pompidou s'investit, ce sont les tentatives vaines du RPF pour avoir un organe de presse. Alors, on le voit avec création d'un journal, tentative avec le journal Le Monde. Et là, bon, ce sont deux secteurs où Pompidou est vraiment très, très actif. Et puis, comme il est en dehors du parti, tout en étant le plus proche du général, son rôle, je crois, aussi est d'être un homme de contact. Il a été vraiment un homme de contact, à la fois à l'intérieur, alors notamment pour gérer les égos et toutes les crises, toutes les tensions internes, vous l'avez dit, avec les dirigeants, les hauts dirigeants ou les petits cadres hein, du RPF. Et d'ailleurs, à cet égard, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des inimitiés qui apparaissent dès cette époque et qui sont durables finalement chez lui, peut-être parce qu'il les a vus très tôt, il les a perçus avec son intelligence donc très tôt. Donc d'une part à l'intérieur du RPF, mais aussi à l'extérieur. On le voit beaucoup, j'évoquais ses activités nocturnes quasiment, enfin, et les déjeuners, etc. Il est vraiment l'homme qui a des contacts avec la presse, avec les hommes du pouvoir aussi. C'est quelqu'un qui peut parler à des SFIO, au MRP, donc aux forces de la troisième force, donc de la majorité de l'époque. Et je crois que ça, c'est les autres dirigeants avaient beaucoup plus de difficultés à le faire. Et le rôle de conseiller politique, il est réel, en tout cas, d'après ce qu'il écrit, mais je pense que ça, c'est quand même très, très fiable. Avant même les législatives de juin 1951, on le voit conseiller le général et se organiser, par exemple, les conseils de direction. Enfin, il participe un peu à l'ordre du jour, à ce qui va être dit, il empêche que tel sujet soit abordé ou, au contraire, il souhaite qu'un autre soit évoqué. On le voit intervenir sur certains discours du général, et notamment son investissement dans la préparation des élections de 1951, y compris pour la sélection des candidats, sélection à laquelle le général de Gaulle lui-même hein, a beaucoup participé, mais beaucoup par l'intermédiaire justement de Georges Pompidou. Et ça prouve hein, une montée en puissance, et le rôle effectivement après les législatives de 1951 et à partir de la scission et de la crise provoquée par le ralliement d'un certain nombre d'élus à Pinay, donc en 1952, là, son rôle, effectivement, est d'essayer de trouver la meilleure formule pour conseiller le général entre faut-il tout arrêter, faut-il continuer. Et là, il est, je pense, très présent et assez écouté par le président du RPF.
Alors, effectivement, vous offrez la transition, merci. Il y a une forme de lassitude qui touche De Gaulle au fur et à mesure qu'après les élections de 1951, il voit une partie des forces vives du gaullisme s'éloigner, commencer à céder aux sirènes, notamment d'Antoine Pinay. Et puis, il y a ce moment de 1953, où d'une part De Gaulle se décide à mettre en sommeil le RPF et d'autre part Georges Pompidou lui-même fait part de sa volonté de prendre du champ et de partir dans le privé à la banque Rothschild par le biais d'une connexion d'ailleurs, d'une connaissance qui s'est faite via le RPF, donc, c'est-à-dire René Fillon. Alors pourquoi
Excusez-moi. Oui, pardon. Excusez-moi Frédéric, juste je corrige un tout petit peu parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le général n'a pas mis en sommeil le RPF en 1953. Hein. Il l'a retiré de la vie électorale, mais en réalité les archives le montrent. Oui. Lui-même et beaucoup d'autres hein, se sont largement investis. La mise en sommeil ne date que de 1955.
1955, voire même peut-être après, puisqu'on trouve les traces d'un RPF, disons, fantôme.
C'est le rassemblement, voilà, c'est autre chose.
Le rassemblement fantôme qui a effectivement continué à traverser les dernières années de la 4e République. Mais alors pourquoi ce départ de Georges Pompidou en 1953 une espèce de lassitude vis-à-vis de la politique, une crise de foi peut-être ou alors juste l'idée de se mettre en réserve en attendant des temps plus propices, ou en tout cas des temps où il s'estimera plus utile concrètement à l'action du général. À votre avis, Arnaud Pixier ?
Je crois que ça, une des raisons apparaît très clairement dans ces sources et présentées, étudiées par Bernard Lachaise, ces carnets qui sont vraiment très, très précieux, c'est que le travail avec De Gaulle de ce point de vue-là est compliqué parce que De Gaulle cède par moments à des phases de découragement ou de refus obstiné d'entrer dans le jeu politique, à un moment où la 4e République paraît bien solidement installée. On n'est pas encore dans la période de crise qui va amener le retour au pouvoir de De Gaulle. Tout ça se passe dans un espace de temps très réduit, mais d'une très grande densité historique. Et donc, il y a peut-être une part de lassitude devant ce comportement de De Gaulle, dont on sent bien que par moments, il exaspère un peu Pompidou, qui a l'impression qu'il tourne en rond. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça, ou que De Gaulle est trop sévère aussi avec ceux qui travaillent avec le RPF. Donc, les contradictions de De Gaulle peuvent à un moment donné peser sur Pompidou, comme elles pèsent sur d'autres collaborateurs de De Gaulle. Je citais Claude Mauriac, ça c'est quelque chose qui a été observé souvent par ceux qui étaient proches du général. D'ailleurs, c'est jamais des phases de découragement très longues. De Gaulle se reprend toujours très vite, mais quand même, c'est pas quelqu'un avec qui il est facile de travailler, surtout dans une telle intimité. Et puis il y a cet autre aspect de la personnalité de Pompidou, je crois qu'il est un trait de caractère, c'est que c'est quelqu'un, comme disait Julien Gracq, il fait partie de ces normaliens qui sont toujours à observer plusieurs destins qui s'offrent à eux. Et après tout, Pompidou a peut-être envie de faire d'autres expériences, quitte à revenir vers la politique le moment venu. Il a toujours été un peu, alors j'hésite à dire, c'est le cas de le dire, il a toujours été un peu hésitant, mais je crois, ça j'ai beaucoup cité dans mon livre de témoignages de Julien Gracq, qui a bien connu Pompidou, qui l'a fréquenté, y compris pendant la période de Matignon puis de l'Élysée. Il fait partie, enfin, dans le caractère de Pompidou, il y a cette idée qu'il faut toujours garder ouvert le champ des possibles, que la politique n'est pas tout, que le monde des affaires n'est pas tout, il y a aussi la littérature, il y a aussi l'art, bien entendu, et Dieu sait que tout ce qui relève de l'art et de la littérature comptera pour lui. Il y a la famille, il y a sa femme, il y a son fils, il y a cette vie sociale que Bernard Lachaise soulignait, qu'il aime déjeuner, dîner en ville, il aime les contacts sociaux, et ça facilite beaucoup les choses d'ailleurs pour De Gaulle aussi. Donc voilà, la vie pour lui ne se résume pas à cette entreprise un peu obstinée du général qui quelquefois est un peu lourde à porter, même si il est absolument certain que Pompidou partage la vision de l'intérêt public et du destin collectif que De Gaulle peut éprouver.
Alors, précisément, 1953-1958, les années de traversée du désert, même si évidemment on peut considérer que la traversée du désert commence à laisser apparaître quelques oasis dès l'année 1957, où l'agenda du général commence de nouveau à se remplir. Et ce paradoxe qu'effectivement, Georges Pompidou n'est pas un homme de mai 58. Il n'est pas de ceux qui contribuent activement à ramener De Gaulle au pouvoir en mai 1958, mais que par contre, il va très vite s'imposer comme un homme clé de la transition et de ce cabinet que De Gaulle va diriger à Matignon dans les derniers mois de la 4e République. Alors, comment expliquer finalement que Pompidou soit passé de ce rôle relativement extérieur à un rôle absolument central, puisque à Matignon, il revient cette fois-ci en position de force, et avec une position tout à fait éminente où il est le principal interprète de la position du général de Gaulle, alors que s'élabore la constitution de la 5e République et que se prépare un certain nombre de décisions stratégiques, comme par exemple le plan de remise en ordre de l'économie, le plan Pinel-UF. Alors, je me tourne vers vous, Bernard Lachaise. Comment définir la position de Pompidou à ce moment-là?
Alors, elle a été qualifiée par divers acteurs de l'entourage du général qui le connaissent bien et qui connaissent bien également Georges Pompidou à l'époque. Je pense par exemple à Olivier Guichard, qui a pu dire qu'il avait en fait joué le rôle d'un premier ministre quasiment, si l'on considère que le général n'est que, entre guillemets, président du Conseil, mais a quasiment les pouvoirs d'un président de la République, ou autre formule de Pierre Lefranc, disant qu'il était l'alter ego du général pendant cette période des 6 mois, de juin 1958 jusqu'à l'élection du général à la présidence de la République. C'est un rôle majeur, qui tranche avec la discrétion donc, de Georges Pompidou dans les activités politiques effectivement entre 1953 et 1958. Le général ne pouvait pas trouver meilleur directeur de cabinet. Il connaissait toutes les qualités de Georges Pompidou. Il savait qu'il qu'il avait l'expérience quand même de tout ce qu'il avait fait au temps du RPF. Donc pour lui, c'était absolument idéal. Il y avait une confiance extrêmement forte. Et on voit bien, il sait aussi que Georges Pompidou, comme le disait Arnaud Tessier, avait d'autres goûts, avait un peu changé de vie en entrant chez Rothschild, était devenu plus mondain peut-être, avait goûté à d'autres plaisirs, mais il accepte par devoir et parce que le général de Gaulle le lui demande. Et il y a un petit mot de Madame de Gaulle qui est touchant, exprimant enfin à la fin de cette expérience des 6 mois, exprimant donc à Georges Pompidou et à son épouse le fait qu'elle est bien consciente que ça a été un effort, hein, elle parle quasiment de sacrifice que Pompidou a accepté pour servir le général, pour servir la France, cette période très dense. Alors, il a un rôle considérable parce que les enjeux sont énormes, hein, dans l'été et l'automne 1958, la question algérienne qui a quand même fait basculer la 4e République, la question du redressement financier, ce sont et la Constitution, bien sûr, l'élaboration de la Constitution qui était quand même la première mission. Donc, le général de Gaulle ne peut pas évidemment tout faire, il va se concentré essentiellement sur la question algérienne durant cette période. Et pour le reste, en quelque sorte, eh bien, Georges Pompidou s'investit beaucoup dans le redressement financier. Là, il joue un rôle tout à fait considérable, beaucoup moins dans l'élaboration de la Constitution, beaucoup moins que lui-même peut-être ne l'a dit, sauf peut-être sur quelques aspects. Mais en tout cas, ce n'est pas l'homme de la Constitution, de même que ce n'est pas l'acteur de la création du nouveau mouvement gaulliste, l'UNR, ni l'artisan de la mise en place des élections de novembre 1958. C'est vraiment, pour tout le reste en quelque sorte, mais c'était essentiel, pendant que de Gaulle rencontrait Adenauer en septembre pour approfondir la relation franco-allemande, pour cette question de l'entrée de la France dans le marché commun, puisqu'on tenait les engagements malgré l'opposition au traité en 1951 ou 1957. Donc, Pompidou, là, joue un rôle absolument clé. Ce qui est curieux, c'est que le général n'en parle pas, n'évoque pas ce rôle de Georges Pompidou essentiel dans ses mémoires d'espoir, alors qu'il va pourtant manifester d'une autre manière, je pense, toute sa reconnaissance. D'abord, même si c'est assez symbolique, le fait que Georges Pompidou soit dans la voiture présidentielle le jour de l'investiture, le 8 janvier 1959. C'est un détail, mais un détail fort important, parce qu'aucun autre n'a ce privilège à ce moment-là. Et c'était assez inattendu, et ça a surpris effectivement tous ceux qui ne connaissaient pas bien la politique à ce moment-là, et qu'il le nomme quelques semaines plus tard membre du Conseil constitutionnel. Donc, il y a d'autres signes de reconnaissance, mais il n'est pas revenu sur cette mission qu'au contraire, tous les acteurs de l'époque, les membres du cabinet, c'est Pompidou qui avait constitué le cabinet. Hein, il avait fait confiance, c'est Pompidou, Guichard, Lefranc, cette petite équipe qui constitue le cabinet. Donc, là encore, c'est un signe de la très, très grande confiance que de Gaulle accorde à Pompidou, et ça renforce évidemment le rôle, hein, et le rôle historique qu'il a joué en 1958.
Précisément, un homme de confiance, un vice-premier ministre en 1958, c'est tenté que le terme soit exact, plutôt un premier ministre en 1962. La nomination de Georges Pompidou en 1962 fait suite à celle de Michel Debré, ancien sénateur de la 4e République, membre du Parti radical, très connu du monde politique. Et bien évidemment, la nomination de Pompidou est considérée comme un symptôme de détérioration du pacte de 1958 par les forces d'opposition. On reproche à de Gaulle d'avoir nommé son directeur de cabinet. Alors, finalement, pour éclairer un petit peu cette décision, peut-être qu'il faut se plonger un petit peu dans la psychologie des deux hommes. Déjà, pour Charles de Gaulle, Arnaud Tessier, quelle est la signification de choisir un homme comme Georges Pompidou pour une fonction essentielle, c'est-à-dire celle de Matignon ?
Alors, De Gaulle lui-même s'en est, l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit alors tardivement, quand il est avec Bernard Tricot, le secrétaire général de l'Élysée en Irlande. Bernard Tricot vient le voir après l'échec du référendum de 69, et ils ont de longues conversations dont Tricot a porté témoignage, et De Gaulle dit très explicitement qu'il a voulu, et il le dit aussi d'une certaine manière dans les Mémoires d'Espoir, il a voulu le Premier ministre qu'il fallait au moment qu'il fallait. Pour les débuts de la Ve République, il fallait Debré, pour toutes sortes de raisons qui étaient liées à la mise en place des institutions, peut-être aussi à la guerre d'Algérie, il fallait un homme comme Debré. À partir du moment où l'affaire algérienne va vers son règlement, où les institutions sont en place, mais pas totalement, parce qu'il va y avoir quand même l'affaire de l'élection au suffrage universel, il lui faut quelqu'un comme Pompidou qui va être l'homme qui va accompagner à la fois le travail de modernisation en profondeur du pays, qui va boucler la question institutionnelle avec l'affaire du référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, qui avait une affaire politique très complexe, et qui va peut-être aussi jouer le rôle un petit peu de chef de majorité, ou de qui va faire le lien avec la majorité politique qui se dessine. On revient au jeu politique normal. Donc il a besoin des qualités manœuvrières de Pompidou, et en même temps de quelqu'un en qui il a une absolue confiance, et quelqu'un qu'il connaît bien, et tout en respectant tout à fait le rôle et la dimension de Premier ministre. Ça, c'est, on pourrait en parler longtemps, mais pendant ces années 62-68, cette longue période que Georges Pompidou va passer à Matignon, incontestablement, il s'agit d'un partenariat qui est d'une sorte de collaboration équilibrée, non pas d'une subordination de Pompidou aux quatre volontés de De Gaulle. Mais il est certain aussi que De Gaulle pensait, à partir de 67, qu'il fallait à la fois à nouveau changer de Premier ministre, parce qu'il passait une étape qui était plus sociale, où il lui fallait quelqu'un de plus aligné sur les idées qu'il avait dans ce domaine. Mais le résultat des élections de 67 font qu'il va garder Pompidou. Donc je crois qu'il y a ce côté, l'homme qu'il faut au moment qu'il faut. Et Pompidou est véritablement l'homme qu'il faut pour la politique quotidienne, pour la modernisation, pour les affaires économiques, l'homme qu'il faut à la période d'installation du régime. Et Pompidou lui-même, je crois que c'est aussi un cadre d'action qui lui convient. On peut se demander pourquoi il est attiré, parce qu'on sent bien qu'il est attiré, on voit bien dans ses correspondances qu'il pense que Debré a fait son temps. À un moment donné, on voit bien quand même que Pompidou revient très doucement sur la scène politique et qu'il songe à un destin national. Mais là aussi, je crois qu'il faut voir les choses en essayant d'avoir le regard de Pompidou, toujours le champ des possibles. Il voit que son heure est peut-être venue de faire des choses et des grandes choses avec De Gaulle. Voilà, je crois qu'il y a un certain nombre de circonstances et qui coïncidait tout à fait avec la temporalité gaullienne. De Gaulle savait qu'il avait peu de temps, qu'il était âgé, qu'il avait peu de temps, et que donc il ne pouvait pas se tromper. Donc il fallait le bon Premier ministre au bon moment pour les bonnes priorités politiques. Et j'ajoute qu'il y a un côté qu'on ne souligne pas assez chez Pompidou, c'est un très bon technicien aussi de l'administration, du gouvernement au sens le plus technique du terme. Même s'il n'a pas fait l'École nationale d'administration comme d'autres collaborateurs de De Gaulle qui vont s'affirmer dans ces années-là, Pompidou est un administrateur. Il est passé par le Conseil d'État, il sait diriger des équipes, il connaît déjà bien le milieu politique, même s'il ne connaît pas bien le milieu parlementaire. Donc c'est le Premier ministre sans doute idéal, et tout ça se fait naturellement, à mon avis, en 62.
Alors, justement, c'est la transition parfaite. Le projet de Pompidou en 1962, devenir Premier ministre, c'est quelque part sortir d'une relation de collaboration avec le général de Gaulle, c'est hériter d'une fonction, c'est devoir l'affirmer, et c'est aussi, le cas échéant, devoir s'opposer pour affirmer les pouvoirs et l'étendue de la fonction. Alors, comment est-ce que ce processus se met en place chez Georges Pompidou, Bernard Lachaise ?
Il dispose d'atouts liés à son expérience autant du GPRF et autant du RPF et en 1958. Il n'est pas élu. C'est vrai qu'il ne devient député qu'en 1967. Donc, il ne connaît pas la vie politique de l'intérieur. Il avait d'ailleurs, je crois, même qu'en 1962, il n'avait jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale lorsqu'il devient Premier ministre. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il connaît bien le personnel gaulliste, qui est quand même majoritaire à l'Assemblée en 1958 comme en 1962. Et il connaît également bien la presse, le monde de la presse nationale. Donc, ce sont des atouts qui sont utiles lorsqu'il devient Premier ministre en 1962. Et puis, très vite, il montre ses capacités. L'affaire en 1962, qui n'a pas été simple, effectivement, de la réforme de la Constitution et de la décision du général de Gaulle de faire élire le président de la République au suffrage universel direct, bon, malgré la censure dont le gouvernement Pompidou est victime et qui est évidemment difficile et qui est un échec, et d'ailleurs la seule censure qui aboutit à ce jour sous la Ve République. Dans cette affaire donc difficile, finalement, Pompidou surmonte. Il a été censuré, il est confirmé par le général, les élections sont gagnées et il surmonte cette crise, en quelque sorte, ou cette période difficile. De la même manière, en 1963, face aux graves, aux grandes tensions sociales liées à la grève des mineurs, qui secouent quand même le pays et qui secouent son gouvernement, il fait preuve de ce sens de la négociation, du compromis, il ouvre des négociations et il réussit à sortir également le pays et le gouvernement de cette situation. Par ailleurs, il est capable de s'opposer au général. On sait par exemple qu'il fait partie de ceux, et peut-être lui encore plus que d'autres, qui se sont opposés à ce que le général de Gaulle refuse de gracier donc le général Jouot, donc un des putschistes d'avril 1961. C'était l'intention du général. Pompidou était hostile, il a mis sa démission en balance et finalement il fait partie au moins de ceux qui ont convaincu le général de cela. Et il croit effectivement sans doute de plus en plus à son destin. Dès l'époque du RPF, finalement, parmi les champs du possible qu'évoquait Arnaud Tessier, il envisageait peut-être cette carrière politique à un plus haut niveau. Et on voit clairement en 1964, c'est-à-dire un an avant l'élection présidentielle, qu'il pense finalement beaucoup à cette élection. Il est inquiet et par la suite même désorienté, voire un peu irrité que le général de Gaulle ne donne pas ses intentions concernant sa candidature, se représentera-t-il ou pas en 1965. Et il y a dans les archives une lettre qui est intéressante, qu'il écrit, qui est assez longue, qui est une lettre au général, où il met bien en avant les deux possibilités, ou bien le général se représente, il affirme qu'il le souhaite, ou bien il envisage sa propre candidature et il l'écrit sous cette forme. Alors, un petit peu comme la lettre précédente que j'évoquais au début où je disais il a demandé à son ami Brouillet de détruire cette lettre, celle-ci ne l'a pas envoyée. Mais je crois qu'elle est quand même, elle est conservée dans les archives et elle est, je crois, intéressante parce qu'on est donc un an avant l'élection présidentielle. Alors, on sait ce qui s'est passé, hein. Le général ne s'est déclaré qu'au dernier moment. Mais ça veut dire que Pompidou, que beaucoup déjà considèrent comme un successeur potentiel du général, lui-même hein, était complètement convaincu de ça dès 1964 au moins. Et peut-être, quand on évoque la détérioration des relations entre lui et le président de la République, peut-être que là, il y a un premier élément qui finalement a un petit peu contribué à cette détérioration, car le général de Gaulle, même s'il n'a pas reçu cette lettre, a eu sans doute suffisamment d'écho pour peut-être voir que Pompidou voilà, envisageait déjà la suite, ce qui n'était pas nécessairement pour lui plaire, même si par ailleurs il l'encourageait à se préparer. Mais bon, peut-être qu'il a eu le sentiment qu'il allait un petit peu vite à ce moment-là et que finalement, bien avant les divergences sur les questions sociales et en particulier sur le projet, grand projet social gaulliste de la participation, qui est quand même une des clés de la divergence entre Pompidou et le général, il y avait peut-être déjà là une petite, voilà, un petit désaccord, une petite tension non complètement exprimée, mais réelle, bien avant la présidentielle de 1965.
Merci beaucoup. Alors, justement, je vais me tourner vers un Montessier. Vous avez, du point de vue de Pompidou, finalement, essayé de brosser ce chemin, qui est un chemin d'affirmation, qui est aussi un chemin de prise de distance progressive avec de Gaulle. L'interpréter du point de vue de Charles de Gaulle. Est-ce qu'on considère que Georges Pompidou, c'est un collaborateur qui sort de son rôle, ou est-ce que Charles de Gaulle voit et accompagne, dans une certaine mesure, le chemin d'affirmation de Pompidou? Et est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une perte, je ne dirais pas de confiance, mais en tout cas une détérioration de la relation entre les deux hommes, ou est-ce que ce n'est pas la logique institutionnelle de la Ve qui se met en place et qui, quelque part, favorise ce processus?
Il est certain que Pompidou prend de plus en plus de place, d'importance. Il devient un personnage politique de premier plan. Il établit un contrôle très, très étroit de la majorité présidentielle. Ça devient une figure politique majeure, Pompidou. Et on peut supposer qu'un homme comme de Gaulle, non pas en a pris ombrage, mais c'est toujours très ambigu d'avoir son successeur potentiel, même s'il va l'encourager, effectivement, et qu'il ne verra jamais peut-être d'autres successeurs véritablement adéquats. Mais en même temps, ça peut provoquer un réflexe humain assez compréhensible. Le général de Gaulle n'était pas à l'abri. C'était aussi un être humain tel que La Rochefoucauld les a dépeints. Et ce que je voulais dire, simplement, et ça me revenait en écoutant Bernard Lachaise, il y a quand même toujours eu entre eux une sorte de relation, une sorte de pudeur. Ils ne se disaient pas les choses si facilement. Et il y a quelque chose qui m'a frappé en particulier, c'est lorsqu'il y aura ce balai un peu étrange après les élections de juin 68, où Pompidou dit qu'il veut partir, puis finalement qu'il veut rester, où de Gaulle laisse entendre qu'il pourrait rester, puis finalement veut qu'il parte, et puis c'est Couve de Murville qui va prendre la succession. Il y a une sorte de jeu étrange, de discussion à distance. Mais au lieu de voir Pompidou et De Gaulle en parler directement, c'est par l'intermédiaire de Bernard Tricot qu'ils font non pas cette négociation, mais cette discussion presque délicate et difficile sur le maintien ou non de Georges Pompidou après les événements de 68, le dénouement de 68 à Matignon. Et c'est très étrange, parce qu'on pourrait se dire, deux hommes comme ça, qui travaillent depuis si longtemps ensemble, pourraient se dire les choses directement. Eh bien non, ils parlent. Il y a une sorte de jeu un peu théâtral, étrange, qui se noue à travers un intermédiaire qui est le secrétaire général de l'Élysée. Ça se voit très bien dans les archives de Bernard Tricot. Et donc, on discerne un peu une sorte de pudeur ou de quelque chose qui montre que ce sont deux hommes. Il y a du respect, une forme d'amitié, même d'affection. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours difficile d'analyser sans tomber dans la psychanalyse de bazar. Voilà. Sinon, je crois que la divergence, la discordance qui commence à s'établir et qui fait que dès 67, De Gaulle pense à un autre Premier ministre, après quand même une durée exceptionnellement longue de Georges Pompidou à Matignon, c'est que De Gaulle, effectivement, veut passer une phase sociale, toujours pressée par le temps, une phase sociale et territoriale aussi, la réforme territoriale et la réforme, le grand projet de participation, sur lequel il faudrait y consacrer, il faudra le faire d'ailleurs, un webinaire complet, surtout à partir des travaux récents qui ont été faits en liaison avec la Fondation. Mais là, je pense qu'il y a problème de plan, c'est-à-dire que Pompidou voit les choses à plus court terme, comme un vrai politique, et De Gaulle commence à voir les perspectives du capitalisme, du statut du salarié dans la société qui s'annonce. Il voit à très longue échéance, comme il le faisait pour la Russie soviétique. Il voit les choses à 20, à 30 ans, et il y a une sorte de décalage qui s'opère entre De Gaulle et Pompidou, qui pourtant le comprend si bien. Les deux hommes se comprennent moins ou ne se comprennent plus parce qu'ils il ne parle plus sur le même plan. De Gaulle se place à une altitude qui se révélera en fait assez prophétique quand on verra ce que sera l'évolution des 30 ou 40 années qui suivront son départ du pouvoir et sa mort. Mais je pense que ce décalage est venu de là, plus que d'un conflit sur le fond. De Gaulle a vu un certain nombre de choses se profiler que Pompidou n'a pas vu tout de suite et que personne n'a vu, puisque, et j'en termine là-dessus, l'Institut de Gaulle, qui n'était pas encore la Fondation de Gaulle, avait fait en 72 une sorte de séminaire, ce n'était pas encore des webinaires, où il y avait tous les anciens collaborateurs de Gaulle, Couve de Murville, Tricot, Bernard Ducamin, enfin, des personnalités qui avaient été très proches de Gaulle à la fin de sa présidence, et on les interrogeait sur le sens du référendum de 69. Était-ce un référendum suicide ? Non, disent-ils tous, mais ces pages extraordinaires que nous avons conservées et qui ont été publiées dans la revue Espoir, ils disent, mais dans le fond, ils ne voulaient pas, ce n'était pas un référendum suicide, mais dans le fond, on n'a jamais compris exactement ce qu'ils voulaient faire. Ils disent, 172, 3 ans après les événements, et 2 ans après la mort de De Gaulle, tellement De Gaulle était un petit peu mystérieux finalement dans ses dessins finaux. Ça, c'est tout un sujet en lui-même, et c'est peut-être pour ça que Pompidou a un peu décroché par rapport à De Gaulle. Ils ne sont plus situés sur la même temporalité. Voilà.
Alors, je vais vous demander votre réaction, Bernard Lachaise. Est-ce que la frontière, il n'y a pas la fracture, ce n'est pas l'interprétation du mouvement de mai 68, et puis surtout, un certain scepticisme de Georges Pompidou, en particulier vis-à-vis du projet référendaire de 1969?
Oui, je crois que mai 68 et la façon dont les deux hommes ont abordé les événements a quand même beaucoup contribué à accentuer, disons, une dégradation peut-être des relations. Pour caricaturer, d'une certaine manière, bon, le général avait dans un premier temps senti qu'il avait mis à côté de la plaque, pour reprendre sa formule, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il estimait que finalement c'était le discours du 30 mai après Baden-Baden qui faisait de lui le vainqueur en quelque sorte, hein, celui qui avait sorti le pays de la crise et rassemblé à nouveau les Français. Et Georges Pompidou, qui était aux manettes au quotidien et qui avait une autre manière de voir les choses, pouvait lui estimer au contraire que c'est parce que justement il avait organisé les accords de Grenelle, parce qu'il avait convaincu le général d'un certain nombre d'éléments dans le discours, justement dans les décisions annoncées dans le discours du 30 mai, que voilà, qu'il avait lui au contraire tenu la maison et que c'était plutôt lui le vainqueur. Et là, je crois qu'il y a une espèce de, ça contribue sans doute à expliquer comment en juin, après ce discours du 30 mai, cette période où on ne sait pas qui va, si Pompidou va finalement rester, si c'est Couve, qui veut rester, qui veut partir, etc., qui veut qu'il reste, je crois que là il y a effectivement, mais c'est très lié à mai 68. Après, la question, la divergence sur la question sociale et le grand projet gaullien qui n'est pas neuf, hein, qui remonte aux origines du gaullisme, à la période de la guerre qui a été exprimée très fortement au temps du RPF, là, il y a vraiment une incompréhension entre les deux. Georges Pompidou n'a jamais adhéré, n'a jamais cru à cela. Et au moment où le général considère que finalement les événements de mai 68 par exemple ont montré, enfin il fait cette analyse en tout cas, que mai 68 a montré qu'il fallait faire aboutir ce volet de ses grands objectifs parce que c'était le vraiment essentiel pour l'avenir du pays à long terme. Là, il y a, voilà, Pompidou ne l'accepte pas et de ce point de vue-là, le général ne pouvait pas garder un Premier ministre qui n'adhérait pas à ce projet.
Alors, puisqu'on arrive au terme de d'un petit peu de ce parcours, je voudrais aussi qu'on se plonge dans la présidence de Georges Pompidou. Georges Pompidou est élu en 1969, Charles de Gaulle meurt en 1970. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est quelle est l'empreinte gaullienne sur la présidence de Georges Pompidou ? Et peut-être même plus exactement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de tournant gaullien dans la présidence de Georges Pompidou qui aurait pu correspondre, par exemple, avec le passage donc, de Jacques Chaban-Delmas à Matignon à Pierre Messmer qui lui succède ? Arnaud Tessier, peut-être ?
Je pense que bon, c'est tout un sujet en soi. Je pense que Georges Pompidou, pendant les 5 années qui vont durer, enfin, ce septennat interrompu, que sera la présidence de Georges Pompidou, il y a à la fois la prise de conscience qu'un certain nombre de vérités ou qu'une certaine vision gaullienne, la prise de conscience que cette vision gaullienne était juste. Ce n'est pas purement intuitif chez moi. Enfin, quand on regarde l'évolution des discours publics de Pompidou entre 69 et 74, on voit une évolution. Ça commence d'ailleurs avec le très beau discours, bien oublié, hélas, qu'il fait à Sciences Po en 72 pour le 100e anniversaire de l'École libre des sciences politiques. Et puis, dans les 2 dernières années de sa présidence, on voit quand même qu'il s'ouvre un petit peu à nouveau à une vision qui est très gaullienne, comme si le tragique du destin collectif lui apparaissait plus nettement, et ça correspond à une période de crise en Occident, où le contexte international économique se détériore. Ça correspond aussi, là aussi il ne faut pas faire de la psychanalyse de bazar, mais enfin, ça correspond aussi à l'évolution de la santé personnelle de Georges Pompidou. Donc il y a un côté plus sombre, et en même temps, je trouve, une sorte d'évolution de Pompidou vers quelque chose, oui, vers une posture plus gaullienne, alors qu'évidemment entre 69 et 72 il a affirmé un petit peu son originalité après le départ de Gaulle. C'est en plus la mort du général, les funérailles, le souvenir de l'affaire Markovitch. Il y avait quand même une certaine amertume, une certaine tension qui resté de tout cela, l'affaire du testament du général. Donc, au début de la présidence, Pompidou essaie d'imposer sa marque, mais c'est comme s'il était repris par la grande ombre gaullienne, par le côté tragique de la vision gaullienne, et qui s'accorde en plus à l'évolution du monde et à son évolution personnelle. Et encore une fois, c'est sensible dans ses discours, dans ses interventions publiques, dans un certain nombre d'actes politiques qui suivent effectivement le départ de Jacques Chaban-Delmas et une inflexion de la présidence Pompidou à partir de 1972.
Je voulais savoir ce que vous pensez de cette analyse, Bernard Lachat, dès qu'il y aurait eu un tournant presque tragique, en quelque sorte, dans le quinquennat de Georges Pompidou. En particulier que cette image souvent qui lui a collé d'homme du bonheur des Français, d'homme qui aurait incarné un certain libéralisme heureux après des années, disons, marquées par une espèce d'austérité gaullienne, vient finalement, en reprenant le quinquennat dans sa durée, en pensant à cette idée d'un tournant des années 73-74, on pouvait éventuellement le nuancer. Alors, qu'en pensez-vous, justement ?
Alors, sur le plan institutionnel, le départ de Jacques Chaban-Delmas correspond effectivement sans doute à l'affirmation du président Pompidou de sa conception de la Ve République gaullienne, c'est-à-dire la suprématie du président de la République, alors que certains, lui peut-être, reprochaient à Jacques Chaban-Delmas d'avoir une vision plus parlementaire, bon, ce qui n'était pas effectivement le point de vue de Georges Pompidou. En même temps, si on réfléchit à deux aspects des 2 dernières années du président Pompidou, on peut se demander s'il ne s'éloigne pas justement du général de Gaulle ou de ce qu'avait fait le général de Gaulle sur, encore une fois, le plan institutionnel, le projet de quinquennat de réduire la durée de la présidence de la République à 5 ans était une idée originale mais non conforme à la vision gaullienne traditionnelle. Elle s'est d'ailleurs heurtée à une opposition assez forte d'un certain nombre de gaullistes historiques et elle n'a pas abouti, comme chacun le sait. En matière de politique étrangère, sur l'Europe, la politique qui avait été certes entamée depuis le congrès de La Haye de 1969 et qui avait abouti au référendum de 1972, donc encore au temps de Jacques Chaban-Delmas, n'est pas non plus, ne correspond pas à la ligne originelle, en tout cas, du général de Gaulle. Et là encore, un certain nombre de gaullistes ont regretté ou n'ont pas suivi cette ouverture de la présidence Pompidou vers l'élargissement de l'Europe tel qu'il est lancé à partir de 1969. Donc, il y a certainement l'aspect tragique, oui, qu'évoquait Arnaud Tessier, mais je ne sais pas si on peut complètement parler d'un retour à une vision gaullienne ou d'un Pompidou plus gaullien dans les deux dernières années. Je pense que c'est mitigé. Enfin, mon point de vue est plus mitigé.
D'accord. En tout cas, ça donnera lieu, j'espère, à un certain nombre de débats. Par exemple, dans le cadre de la Fondation. Je voudrais me tourner maintenant vers Jacques Godefrin, puisque vous avez vécu ces dernières années, ces deux dernières années du mandat de Georges Pompidou. Vous l'avez côtoyé en tant que conseiller à l'Élysée. Est-ce que vous aviez l'impression que l'ombre portée du général pesait sur Georges Pompidou, justement, dans ces dernières années ?
Elle n'a jamais sans doute quitté l'esprit de Georges Pompidou. Il se plaisait à parler, à distinguer les gaullistes du gaullisme. Il les avait connus avec leur caractère et leur faiblesse aussi, leur ego. Tout au long de la Quatrième République, à l'époque du RPF et après, il en avait beaucoup vu les faiblesses. Donc, il était apte à juger les uns et les autres de ce qui pouvait être incarné ou apporté à l'action du général. Et je sais que assez souvent, il était assez sévère avec la classe politique, comme l'on dit, mais surtout celle qui entourait le général, parce qu'il les avait quand même pratiqués dans le plus intime d'eux-mêmes. Et il était, oui, je le redis, il était assez sévère et distant. Malgré ce, n'oublions pas que Pompidou a été aussi choisi par le général alors qu'il portait le péché originel de n'avoir pas fait de la résistance. Il le dit à son ami Pujol, il fait un peu à l'agent de liaison, il porte quelques lettres, etc., mais ça ne va jamais plus loin que cela. Et pour le général, ce n'était peut-être pas un si grave inconvénient que cela, c'était peut-être même plutôt un avantage. N'oubliez pas que lorsque de Gaulle recevait, par exemple, Daniel Cordier, qui le rejoint à Londres dès 40, et que Cordier attend du général, il me l'a dit lorsque on a déjeuné à Oxford avec lui il y a quelques années, il m'a dit, moi j'attendais du général des félicitations, et au contraire, le général lui dit, ben alors Cordier, vous avez mis du temps pour nous rejoindre. Donc, le fait d'avoir s'être engagé dans la résistance, pour le général, ce n'était pas ça la clé pour entrer dans son entourage. Et ça montrait aussi que, pour le général, quelqu'un qui n'avait pas fait la résistance, mais qui, par ailleurs, avait plein de qualités, ça valait aussi bien que quelqu'un qui avait fait la résistance. Il faudrait écrire là-dessus et voir. Bon. Deuxièmement, vous savez, il y avait les barons. Il y avait les barons... dont la liste n'est peut-être pas aussi importante qu'on le croit. Ils se réunissaient à l'Amérique latine, pas très loin, ils déjeunaient ensemble. Guichard, Chaban, Faucard, etc. Je ne citerai pas par charité ceux qui disaient en avoir fait partie, mais qui en fait n'allaient jamais à ces déjeuners, ou une fois de temps en temps, exceptionnellement invités. Mais dès le début, ils invitent Pompidou. Et pourtant, ce n'est pas un baron initialement, mais il le devient. Il le devient non pas par la grâce du général, mais il le devient par l'entourage, je dirais, très, très proche du général. C'est important. La troisième chose, Pompidou, nous ne l'oublions pas, vous l'avez dit au début, mais j'insiste, était un littéraire. C'était un écrivain qui aimait les écrivains, qui aimait les auteurs. Il m'a, à longueur de déjeuner, au lieu que ce soit quelquefois un déjeuner de travail, pas du tout, ça tournait à un déjeuner sur Giraudoux. Et comme je n'étais pas un grand spécialiste de Giraudoux, j'écoutais. Et de Gaulle aussi était un littéraire, un très grand littéraire, qui avait une connaissance parfaite des grands auteurs. Et c'est ça, je crois, le point de rapprochement entre de Gaulle et Pompidou, c'est qu'ils étaient intellectuellement fabriqués à la même aune. Je crois que c'est important. Mais il y a un nom qui n'a pas été prononcé. Et j'insiste là-dessus, et invisiblement, cet homme a changé certaines attitudes. C'est Giscard. C'est Giscard, car si Pompidou, on l'a accusé de s'être précipité à Rome, à Genève, etc. C'est pas pour embêter le général. C'est qu'en réalité, dans l'ombre, et Pompidou le savait, nous le savions bien, que Giscard se préparait. Se préparait pour prendre tout le monde de vitesse. Et donc Pompidou était certainement dans l'obligation, à un moment donné, de ne pas se laisser faire sur se faire prendre de vitesse. Ne l'oubliez pas. Et alors, on y reviendra peut-être d'autres fois, mais sur la participation, je pense qu'il y a eu effectivement une prudence de Georges Pompidou, pour deux prudences. La première, c'était reconstruire la France industrielle, c'était faire appel et accepter des capitaux étrangers, des capitaux américains, des capitaux qui investissaient dans la modernisation de l'appareil industriel, et dire à des investisseurs, on accepte votre argent, mais vous savez, dans 20 ans, ce ne sera plus vous les propriétaires, ça c'était l'amendement Vallon, on vous foutra à la porte, c'est quand même assez délicat de dire cela. La deuxième raison, c'est effectivement, et je l'ai vécu à l'Élysée, où le secrétaire général adjoint s'appelait Jean-René Bernard, qui était proche de Giscard. Autant avec Édouard Balladur, on a trouvé un appui très fort sur la participation, et encore maintenant, puisqu'il a lu ce que nous avons écrit récemment avec Lionel Tourtier. Autant on savait que dans l'ombre, Giscard cisaillait toute possibilité de changer le régime social, le régime des salariés. Donc si Pompidou avait ouvert les vannes, on dirait, pour ce bouleversement de la condition sociale des salariés, c'est que là, il rompait complètement avec toute une partie du patronat et des dirigeants. Et il ne faut pas oublier ce rôle de Giscard dont on a peu parlé, dont on parle rarement, mais qui a obligé Pompidou, un, à précipiter un peu le mouvement, à parler pour couper l'herbe sous les pieds, hein, comme ça, pour occuper le terrain, on va dire, plus élégamment, et deuxièmement, sur le plan des réformes sociales, il savait très bien que là, il ouvrait un boulevard à Giscard dans certains milieux d'affaires. Voilà. Je terminerai, parce que je crois que l'émission est bientôt finie, sur cet aspect des choses, sur ces relations auxquelles Pompidou a assisté pendant des années et des années, sur, je dirais, pas que les dissensions, même les haines qui nourrissent la vie politique. N'oublions pas Mendès France et Pleven, je veux dire, au point que c'est Pompidou qui devait régler comme une sorte de balai les visites que l'un ou l'autre faisait au général ici même à la rue de Solferino. Il était hors de question que les deux hommes se rencontrent. Et le général les recevait tous les deux, mais il fallait que ce soit Pompidou qui arrange les choses. C'était important qu'il soit là avec son habileté, sa façon de faire, un peu auvergnate, un peu, bon, je connais bien. Et puis, pour terminer, vous avez dit un mot aussi sur les relations de presse, que le RPR n'a jamais pu avoir de grand journal. Si, il avait le Rassemblement, qui était un journal militant. Mais il y a eu des liens issus de la résistance quand même avec le groupe Amaury, avec M. Amaury, qui n'aimait pas refuser quoi que ce soit au général, par fidélité. Donc, à travers les journaux du groupe Amaury, les messages du RPF arrivaient à passer. J'ai pu voir la façon dont M. Amaury était reçu à l'Élysée. C'était important de voir cet invisible lien existant entre lui et l'entourage général. Voilà. Donc, je voudrais, pour tout à fait terminer, minimiser le fait que les deux candidatures, annonces de candidature de M. Pompidou, n'était pas faite pour désobliger le général, mais pour occuper le terrain, parce que quelqu'un d'autre l'aurait sévèrement occupé, ça c'est certain. Et deuxièmement, sur la participation, il y avait peut-être une divergence de fond sur le long terme, etc., sur la place de l'homme, mais il y avait là aussi un jeu politique compliqué. Vous savez, la participation, j'en sais quelque chose, elle est loin de faire l'unanimité encore aujourd'hui. Et dans des milieux dont je suis très proche, ce n'est pas évident de la vendre au sens noble du terme. Ce n'est pas évident. Voilà. En tout cas, merci. J'ai beaucoup aimé ce dialogue entre vous deux. Ça nous a confortés et appris. Voilà. Donc, je rends hommage aux orateurs.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais écoutez, il me reste effectivement à vous remercier, à remercier les deux intervenants, dont je rappelle les ouvrages, je vous recommande la lecture. L'ouvrage de Bernard Lachaise, Georges Pompidou avec De Gaulle, 1944-1959, aux éditions Codex. Je recommande vraiment la lecture, ne serait-ce que parce qu'on entend De Gaulle parler, ce qui est à l'époque son plus proche collaborateur, son homme de confiance. On entend dans sa bouche des mots qu'on ne trouve pas ailleurs, donc c'est vraiment une source à lire, une source qui renouvelle le regard sur le général de Gaulle. Et cet ouvrage d'Arnaud Tessier, donc l'énigme Pompidou de Gaulle, paru aux éditions Perrin, qui est véritablement une synthèse qui brosse des vies parallèles des deux hommes, de la naissance à par-delà la mort, qui s'intéresse également à la place de Pompidou dans la mythologie gaulienne. Bref, un très, 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 très beau livre d'histoire. Voilà. On espère que ce dialogue vous a donné envie de les lire, tout simplement. C'était le principal objectif. Et voilà. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.